avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine à Paris. Je répète que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux par exemple sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable, avec un zoom sur le gros plan du pays nantais, le monde du Sauvignon blanc, on le trouve partout dans le monde, les secrets de la clairette, le Vino Quiz pour gagner des jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, Hélène Puyot, bonjour Hélène.
Bonjour.
Ainsi que Philippe Orbach et David Cobol et André Derieux. Bonjour mes trois messieurs. Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Pour commencer cette émission, Invino Sud Radio retrouve Hélène Puyot, chef de rubrique au magazine Régal, en compagnie de Xavier Buffo. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Alors vous êtes le directeur de ce fameux château de la Rivière et vous êtes sur place, si je puis dire, depuis plus de 25 ans. Vous le connaissez par cœur, ce terroir.
Effectivement, ça fait, j'ai la chance de présider aux destinées de cette belle propriété là sur les hauteurs de Fronsac. Et effectivement, c'est un beau terroir argilo-calcaire que je commence à bien connaître, oui.
Hélène ?
Alors en effet, en appellation Fronsac, près de Libourne, hein, dans le
Bordelais. À Bordeaux.
Voilà. Et ce château La Rivière, qui est une fierté française, est aussi une fierté chinoise, puisqu'elle appartient au groupe chinois Bolian, qui est propriétaire d'hôtels en Chine, dans la province de Yunnan, producteur de thé, magnifique, pu'er, et puis donc de vos vins, parce que ce sont quand même les vôtres, Xavier Buffo.
Et oui, c'est l'autre. Alors oui, j'y mets tout mon savoir-faire, moi et mes équipes. Hein, et effectivement, on produit essentiellement des vins rouges, mais et un petit peu de rosé, un petit peu de blanc aussi.
Alors vous êtes arrivé au château La Rivière en 1997.
Oui.
C'est ça. Et le domaine, lui, avait été créé bien avant.
Bien avant. Le château de la Rivière fait partie des propriétés historiques du Bordelais. On connaît l'ensemble des propriétaires et des seigneurs depuis 1350, alors qu'effectivement, ça fait bien, bien longtemps. Et les coteaux, nos cotons de Fronsac dominent la Dordogne, qui est juste en contrebas, là, à quelques centaines de mètres du château. Et il y a de la vigne depuis les Romains, hein, c'est les coteaux. Donc c'est sûr. Et donc on y produit du vin depuis fort longtemps, effectivement. Oui.
Alors c'est un vrai château, effectivement, vous le soulignez, un château centenaire, magnifique, avec des tours, des donjons. Enfin, c'est un château de dessin d'enfant. Une centaine d'hectares, c'est ça, de terrain?
Alors, Le domaine, c'est une centaine d'hectares. Il y a un petit peu moins de vignes parce qu'on a beaucoup de bois et c'est aussi une chance. Hein, ça apporte beaucoup de biodiversité et un microclimat assez unique. On a 65 hectares de vignes.
Ce qui est déjà important. C'est déjà important.
Oui, absolument. Et c'est une unité patrimoniale remarquable parce que c'est vraiment autour du château, ce qu'on appelle d'un seul tenant, et c'est une réalité. Et donc on a les 65 hectares de vignes en coteaux et en plateaux calcaires. Et 25 hectares de bois, et donc c'est vrai que ça il y a une espèce de protection, un microclimat qui est unique et qui est très intéressant pour la culture de la vigne.
Et alors vous avez aussi, je crois, 8 hectares de caves.
Ouais, ça c'est le trésor de nos carrières.
Mais c'est quel type de cépage, la cave, parce que
c'est énorme, 8 hectares de
caves. On y fait on peut s'y perdre dans ces caves, c'est extraordinaire.
Alors on s'y perd, c'est un vrai labyrinthe. C'est des d'immenses caves comme on peut retrouver dans tous les vignobles français où il y a du calcaire. Et donc à Bordeaux, il y a bien sûr sur la rive droite de la Dordogne, on va dire de Saint-Émilion jusqu'à Bourg, en passant par chez nous, on a ce plateau calcaire, et dans ce plateau calcaire a été creusé il y a quelques centaines d'années des caves. En fait,
ce sont des carrières.
Oui, c'est des carrières de pierre. Ouais. C'était à l'époque pour construire.
Et vous stockez du vin à l'intérieur, Xavier? Qu'est-ce que vous faites?
On stocke tout notre vin aujourd'hui, oui, parce que c'est la cave idéale, 13 degrés toute l'année, 100% d'humidité. Donc, dès que le vin est mis en bouteille, il est stocké dans nos caves à température constante jusqu'à ce que le vin soit vendu. Et c'est extraordinaire.
Et quand vous avez un restaurateur qui vous paye pas votre vin, hop, ça y est, on le met dans la cave.
Voilà, avant qu'il en sorte, je vais te dire, ça va être long.
Et donc nos 8 hectares, c'est effectivement techniquement très très intéressant, puisque nos vins vieillissent de manière admirable. On fait des vins de garde, mais en plus ils ont cette capacité à vieillir dans un endroit idéal. Et en plus on s'en sert aussi pour faire visiter, parce que c'est les aménagements des caves du château de la Rivière datent de 1927. Ça va faire presque 100 ans qu'on fait de l'œnotourisme au château de la Rivière.
Impressionnant.
Et alors, cet œnotourisme, il peut parfois ne pas prendre que des formes qui se limitent au vin, puisque les 2, 3 et 4 juillet, vous allez organiser, une fois de plus chez vous, le festival Confluent d'Art, avec notamment un concert des Rita Mitsuko, du théâtre, du jonglage. Elle boit du vin, Catherine Ringer?
Ben, je ne le sais pas encore, mais quelque chose me dit qu'elle doit bien aimer le vin. Voilà, j'ose le croire. Effectivement, j'ai créé ce festival, ça va faire la 4e édition maintenant, et c'est un festival tourné sur la culture, bien sûr, la musique, le cinéma en plein air, le théâtre de rue, mais aussi les dégustations. Voilà, c'est un festival multifacette.
Il dure combien de temps, Xavier ?
Trois jours.
Et combien de personnes participent à vos cérémonies ?
L'année dernière, on a reçu un peu plus de 5000 personnes.
Ah, quand même, c'est énorme, quoi.
Et aujourd'hui, le festival, donc la tête d'affiche cette année, c'est donc Catherine Ringer, hein, qu'on voit beaucoup en ce début d'année. Donc elle a accepté de venir chanter au château de la Rivière. Et on affiche déjà complet. On est au mois de février. Et le concert est déjà complet. Mais il y a beaucoup d'autres événements durant le festival qui sont d'ailleurs gratuits. Il y a beaucoup de choses gratuites. Donc on veut un festival d'ailleurs comme le château. On veut
populaire,
qu'il soit,
sympa.
Voilà,
populaire, élégant.
Ouvert au public.
Vous avez un mail peut-être pour prendre renseignement sur vos vins en général et puis cet événement, ces trois jours au mois de juillet.
Alors c'est le site internet. Oui, je vais pas vous donner mon mail, c'est le site internet du château de la Rivière, www.château-2-la.
.com. Avant le coup de cœur d'Hélène Pio, là, il y a une partie importante pour les vins, c'est le bouchage des bouteilles. Comment vous travaillez? Parce que si c'est pas bien fait, on peut avoir des déconvenus, nous, en tant qu'amateurs.
Alors, c'est toujours le sujet, évidemment, qui peut être sensible, même si les bouchonniers ont fait, je trouve, beaucoup de progrès depuis quelques années. Alors, je travaille avec des bouchons naturels, qualitatifs, évidemment. On bouche avec du liège très qualitatif. Et il y a quelques fabricants qui, maintenant, mettent en place des systèmes pour extraire et pour enlever ce goût de bouchon. La société Diam, pour pas la citer, fonctionne comme ça. Et une partie de la production du château de la Rivière est bouchée avec ces bouchons-là.
Ah ben c'est très bien ça.
L'autre partie avec des bouchons naturels.
Naturels, quoi.
Voilà, et on a peu de problèmes.
Bon, ça c'est très important. Hélène, le coup de cœur alors, pour terminer?
Alors le coup de cœur, ça a été le château de la Rivière 2017, qui est encore très jeune. Hein. C'est serré, c'est dense. Moi, je me suis permis de le passer en carafe, histoire de l'ouvrir un petit peu et voilà, de
l'oxygéner.
Voilà, de l'oxygéner. Et puis, j'ai beaucoup aimé ces arômes de zan très très puissants, de réglisse comme ça.
C'est quoi le zan?
C'est une friandise française.
C'est, voilà. Voilà.
C'est une friandise française. Ce sont des plaques de réglisse ultra concentrées.
Ah, c'est du réglisse.
Voilà. Ouais. Mais vraiment très peu sucré. C'est presque à l'état pur.
Sinon, le vin est bon, Hélène?
Oui. Et le vin était magnifique, effectivement. Il avait ces arômes-là. Et avec une côte de bœuf à la croûte caramélisée.
Oh là là,
en surface,
on a faim, là, ça y est. Combien ça coûte la bouteille?
C'était super bon. 18,50€.
Oh, c'est donné. Merci, Hélène. Bravo, Xavier. InVino Sud Radio retrouve Philippe Orbach, président de la sommellerie française. Pour non pas un gros plan. C'est quoi gros plan là? Mais vous, c'est quoi? Ça vient de quelle région?
Pour un bon plan.
Du gros plan.
Le gros plan du samedi soir.
Le bon plan du gros plan.
Un bon plan dans un gros plan, oui. C'est une appellation dans le secteur nantais, puisque l'appellation d'ailleurs, ça s'appelle Gros Plan du Pays Nantais, situé entre la région du Muscadet, très célèbre, et les coteaux d'Ancenis, un peu plus confidentiel mais très intéressant, essentiellement sur le bord de la Loire, dans sa partie sud, entre Nantes, si on veut, et la Loire. Le nom vient donc de ce cépage particulier, hein, qui s'appelle à la fois le Gros Plan, par sa forme caractéristique, parce qu'effectivement ce sont des gros cèpes et des grosses grappes, c'est pour ça que ça s'appelle le Gros Plan, mais le cépage s'appelle la Folle Blanche, puisque le Gros Plan finalement est élaboré.
C'est plus joli, non?
Oui, alors la Folle Blanche, c'est un joli nom, on pourrait débattre aussi là-dessus.
Mais on peut avoir un plan avec une Folle Blanche.
Exactement.
Ça se complique, hein.
Voilà. Alors on peut rajouter d'ailleurs un peu de colombard et même un cépage très, très
au fait,
inhabituel
pour
qui s'appelle
le
Montil.
Un bon plan avec une Folle Blanche, il vaut mieux être bien gaulé.
Oui, alors là, ça devient compliqué.
Oui, c'est très bien, David.
Non,
merci beaucoup pour votre contribution.
Je réfléchis pendant tout le week-end à cette phrase historique. Oui. Voilà. Donc, c'est un vin blanc,
On peut dire aux chasseurs.
Chouette.
C'est un scoop, là. Vin blanc.
Merci, Philippe. C'est bien d'avoir... On a de la chance d'avoir un meilleur sommelier
du monde. Parce qu'il imagine que...
C'est important.
Oui, c'est un vin blanc.
David, si vous ne l'interrompiez pas toutes les 10 secondes, forcément,
c'est vrai,
ce garçon pourrait se concentrer un peu plus.
C'est un vin blanc plutôt sec.
Toujours blanc. Toujours
fruité, avec une certaine acidité, on va dire ça comme ça. C'est un peu ce qui le caractérise. Et... Le plus intéressant pour moi, c'est celui qui vinifie sur lit. Donc, on garde des défis de vinification pendant un minimum 6 mois et davantage.
Donc, ça veut dire, Philippe, que ce n'est pas un défaut, côté les petits machins. Hein.
Voilà, quand vous avez éventuellement quelques petites suspensions, voire un petit peu de gaz carbonique à l'intérieur, il suffit de l'aérer un petit peu, de faire attention à le servant. Et finalement, mais normalement, on enlève les lits avant la mise en bouteille. Mais elles nourrissent le vin en lui apportant du gras, de la matière, un peu plus d'intensité. Et du coup, une dimension peut-être plus gastronomique que les gros plans traditionnels. Qui sont des vins plutôt de comptoir ou d'apéritif plus simples.
Les huîtres.
Les huîtres, oh, notamment. Bon, oui, les huîtres et le gros pain, ça fonctionne très bien.
J'ai une solution hydroalcoolique pour se laver les mains.
Et revenir.
Ça marche aussi.
Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette appellation a été très populaire, notamment à l'époque où les Hollandais faisaient du marché beaucoup avec les vins français. Et pourquoi les Hollandais s'intéressaient à cette région et à ce cépage dans ce coin-là?
Parce que c'était pas cher.
Parce que c'était accessible, voilà, c'est la tradition effectivement hollandaise, ou l'image qu'ils ont. Mais parce que la folle blanche était très intéressante pour être distillée. Mmh. Et plutôt que de descendre jusque dans la Gascogne, qui était nettement plus loin par rapport à leur base, eh bien ils s'arrêtaient dans ce coin-là où on faisait beaucoup de distillation de folle blanche. Aujourd'hui, depuis le 19e siècle, les activités de distillation ont quasiment disparu, notamment suite à la crise du phylloxéra dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Et donc, on a restructuré un peu le vignoble, on a gardé effectivement certains cépages et on a fait plutôt des vins blancs secs, mais en diminuant beaucoup quand même la quantité de vins produits dans cette région située en bordure de entre la Loire et la mer, entre l'océan, sur un sol de type sableau graveleux peu profond, ce qui permet d'avoir des vins relativement tendres produits dans cette appellation. Les vins sont en général plutôt consommés jeunes. Dans les 1 an ou 2 ans après la récolte, c'est à mon avis, c'est l'idéal. Ça donne des vins qui sont souvent assez pâles en couleur, très, très parfumés par des notes acidulées, agrumes, fleurs blanches, un petit peu iodées. On a les embruns marins qui sont pas très loin et qui donnent ce caractère au vin. Et comme je disais tout à l'heure, quand ils sont vinifiés sur lit, ils ont nettement plus de matière. Oui, quelques vignerons. Le domaine Henri Poiron, par exemple, qui est situé à peu près une demi-heure de Nantes, qui donne, voilà, là il y a des schistes en plus, donc ça donne un peu plus de densité également. Et ça va très bien avec le coquillage, on va pas y revenir, mais c'est vrai qu'une assiette d'huîtres ou de coquillage plus largement, ça fonctionne très bien. Domaine Vincent Caillé, vigneron depuis plusieurs générations, ils font des essais en biodynamie, labour, ils enherbent, etc. C'est vraiment très bien. Ils ont une cuvée qui s'appelle la part du colibri qui vaut vraiment la peine. Et puis l'Uno Papin, célèbre pour ses muscadets, mais
magnifique,
qui produit un gros plan. Mmh. On raconte même qu'un verre porté à l'oreille, vous entendez chanter les mouettes et les bigorneaux. Et ça, c'est un bon gros plan.
C'est dit, Philippe Orbrac. Merci. On se retrouve dans un instant pour le Philo Quiz.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Philippe Orbrac et puis le Vino Quiz, Philippe.
Je vous rappelle le principe, chaque semaine nous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau. Cette semaine, le livre, vous allez enfin vous y connaître en vin, de Sébastien Durand-Vielle.
Et peut-être même dédicacé par l'auteur, voilà, si vous êtes gentil.
Là, vraiment, il faut être réactif en même temps pour gagner le lit dédicacé. Hein. Voici la question de ce week-end. De quel pays Rémena Laza est-elle originaire? Réponse A, France. Réponse B, Panama. Ou réponse C, Guadeloupe. Pour y répondre et gagner le fameux livre, vous allez enfin vous y connaître en vin, de Sébastien Durand-Vielle et David Cobold. Rendez-vous toute la semaine sur notre site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Et on vous souhaite d'être tiré au sort parmi les nombreuses bonnes réponses.
Merci beaucoup Philippe. Invino Sud Radio retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux, pour nous parler du Sauvignon blanc. Parce qu'il peut être rouge, il peut être bleu, il peut être vert le Sauvignon.
Il peut être vert, il peut être gris aussi.
Ouais, plein de couleurs.
Il y a
couleurs.
Un Sauvignon gris. Ouais.
Rose.
Rose.
Rose même. Mais essentiellement, il est blanc. Et quand on regarde les statistiques, tout est groupé sous le vocabulaire de Sauvignon blanc. Donc le gris, on ne sait pas quelle part ça représente. C'est assez mineur, d'ailleurs, je le pense. Alors, Sauvignon blanc, c'est un cépage qui est plutôt à la mode. Il y en a dans beaucoup de pays. J'ai compté 44 pays, au minimum, qui produisent commercialement du Sauvignon blanc.
Et c'est beaucoup, hein?
C'est beaucoup. C'est d'ailleurs le 8e cépage le plus planté dans le monde, juste après le Grenache et avant le Pinot Noir. Ça m'avait surpris quand j'ai découvert ce statistique. Il y a un peu plus de 125 000 hectares, c'est-à-dire plus que le vignoble bordelais dans le monde, plantés entièrement de Sauvignon Blanc. Alors, quels sont les principaux pays? La France, cocorico, en première place, mais pas de beaucoup. 30 000 hectares, où ça représente un peu moins de 4% des plantations au total.
Et c'est essentiellement la Loire ou c'est le sud-ouest?
Alors,
finalement,
on va y venir, Philippe. Patience.
On va écouter attentivement.
C'est au dixième rang dans les cépages plantés en France. Ensuite, en deuxième place, on a la Nouvelle-Zélande avec 24 000 hectares, sur ce qui est en somme tout un petit vignoble. Et le Sauvignon Blanc, il représente près de 70% de la surface totale.
C'est énorme, David. Quoi.
C'est énorme. Et je dis que sur le plan marketing, c'est mettre tous les œufs dans le même panier, c'est même assez dangereux.
Oui, c'est vrai. Ça a été planté récemment, David, ou c'est ancien?
Les premières plantations de Sauvignon Blanc en Nouvelle-Zélande datent des années 70.
D'accord.
Donc c'est allé très vite.
Hein.
Et on estime, j'ai parlé avec des autorités qui connaissent bien ce pays, m'ont dit qu'on estime qu'il y a plus que 3000 hectares plantables en Sauvignon Blanc dans le climat adéquat, qui est essentiellement le Marlborough, la partie nord de l'île du Sud.
En ce moment, ça sera quoi? Trop chaud, trop froid?
Oui, puis pas des régions adéquates. Et je pense qu'il y a aussi une volonté de diversifier leur cépage. Alors après ça, on a le Chili, 15 000 hectares, l'Afrique du Sud, 10 000, et l'Australie et la Roumanie à égalité avec 6 000.
La Roumanie,
oui.
Il est bon, le vin roumain, ou pas?
Il peut être bon, oui. Il y a de très bons. Alors, si on parle de la France, la première région dans sa globalité, c'est le sud-ouest de la France, en incluant Bordeaux, qui vient juste avant le Val-de-Loire. Or, on estime que le Sauvignon Blanc est très probablement, on n'a pas de certitude, mais très probablement originaire du Val-de-Loire, où on trouve la première mention de ce cépage dans le Gargantua de François Rabelais, 1534, où il appelle ça le fier. D'ailleurs, le Sauvignon gris est souvent appelé le fier gris, donc ça confirme ça.
Il y a un rapport avec les fiefs vendéens ou pas?
Pas de rapport avec les fiefs vendéens. Ouais. Alors, autre corrélation intéressante, c'est que maintenant on a identifié par l'ADN un des parents du Sauvignon Blanc. Il s'agit du Traminer, autrement dit Savagnin qu'on trouve dans le Jura, et qui est également un parent du Chenin Blanc. Donc ces deux cépages sont contigus. Donc on peut présupposer que les deux ont une originaire ligérienne. Et le Chenin, d'ailleurs, est à la fois un demi-frère et peut-être un descendant du Sauvignon.
Ça commence à être compliqué, votre truc,
c'est-à-dire
la commode.
C'est gardez-le dans la famille ou inceste et zipeste.
Bon, okay.
C'était, au fait, le vignoble autrefois, c'était un gigantesque bézodrome pour les plantes. Alors, le Val-de-Loire, c'est tout de suite derrière le sud-ouest. Sud-ouest, parce que Sauvignon Blanc, c'est le cépage blanc le plus planté à Bordeaux, hein, de très loin. Mais il y a aussi toute la Gascogne, qui en a énormément, et les appellations limitrophes autour, Bergerac, Marmondais, etc. Après, on trouve pas mal en Pays d'Oc. Hein, il y a 8700 hectares en Languedoc pour les 22 Pays d'Oc. Hein, c'est important. Et puis, des tout petites touches ici et là, on le trouve en Provence, à Cassis, à Aix. Et puis, il y a une poche en Bourgogne, mais c'est pas très loin du centre-Loire, l'appellation Saint-Brie, qui autrefois s'appelait Sauvignon de Saint-Brie. Je trouve ça un peu con qu'ils aient enlevé le terme Sauvignon. Puisque...
Ça, c'est dit.
Vous allez vous faire des copains aussi.
C'est non, mais c'est stupide.
Ne partez pas là-bas en vacances, c'est sûr.
Mais non, mais pourquoi pas donner le nom du cépage, surtout pour une appellation comme Saint-Brie, où personne ne sait où c'est. Bon. Au moins, on dit
donc
ce qu'on
sait. Qu'on embrasse le directeur de la communication qui a décidé
C'est Saint-Brie et ça se trouve en Bourgogne. Hein, donc c'est dans la région Auxerrois.
Les vins sont bons, David, indépendamment de votre appréciation un peu
certains
légère.
Certains sont bons, il n'y en a pas beaucoup, il y a 110 hectares. Hein. Oui, il y a des bons, absolument, j'en connais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les styles, oui. Alors, les styles. Sauvignon est parfois et très souvent vinifié seul, mais il peut être assemblé avec tout un tas de cépages. Dans la Bordelaise, c'est avec le Sémillon, très majoritairement. Mais on le trouve avec d'autres cépages. Donc ça fait des vins plutôt aromatiques, en général sec, même si dans le Sauternais, bien sûr, c'est vinifié en liquoreux. Ça prend assez bien le botrytis. Et je dirais que ce qui a fait le succès, il faut toujours s'intéresser sur la réussite d'un cépage, c'est d'avoir un style reconnaissable. C'est assez marqué, les arômes de Sauvignon. Alors, certains le trouvent vulgaire, voire excessif. Alors, ça peut être très herbacé si ce n'est pas tout à fait mûr, mais ça peut aussi être extrêmement fin s'il est bien traité. J'ai goûté des magnifiques Sauvignons de différents pays. Je pense en particulier au Centre-Loire. Je pense en particulier à l'Autriche, au Steiermark, par exemple, où on raffine beaucoup les Sauvignons avec des grands contenants en bois anciens, pas de bois neuf, où on a même fait des premières crues pour le Sauvignon. Donc, pour le prix, J'ai récemment goûté aux 11e édition du concours mondial de Sauvignon et on avait des vins plutôt pas chers.
C'est sympa, quoi. C'est des prix d'habitude.
C'est très très variable, mais les vins qu'on goûtait allaient jusqu'à 15 euros. Il y avait d'excellents vins entre 10 et 15 euros et parfois à moins, y compris des États-Unis.
Merci beaucoup, David Cabold. Invino Sud Radio retrouve André Derieux, consultant en patrimoine de la vigne et du vin, pour nous parler de quelque chose de très très mystérieux, la secrète clairette.
Ça commence comme ça. Voilà les Grecs. On est au milieu du 6e siècle avant notre ère. Les Grecs de Massalia, Marseille, installent un comptoir à l'embouchure de l'Hérault.
C'est des Grecs
le comptoir,
des Phocéens.
Les Phocéens, les Grecs de Phocée, qui était la Turquie.
C'est
la
Turquie. L'Asie mineure.
À l'embouchure de l'Hérault, le comptoir est nommé Agathé Tuché, ce qui veut dire bonne chance et qui a donné Agde. Et en remontant l'Hérault, à 20 km de là, on arrive à une petite région qui, pendant l'Antiquité, a connu une richesse viticole extraordinaire, dont les communes s'appellent aujourd'hui Pollan, Aspiran, Cabrières, le pays des chèvres, et Adissan. Et Adissan a donné son nom au plus ancien cépage autochtone du Languedoc, la clairette d'Adissan. L'analyse archéologique de pépins de raisin atteste de la haute antiquité de ce cépage. Sous le nom de clairette, il le devra au revers de sa feuille d'un blanc duveteux, un petit peu comme la barbe de Philippe Forbrac.
ou le Pinot Meunier.
Il ne faut pas trop s'en approcher en ce moment, c'est pas la période.
Est-ce qu'on va appeler Philippe clairette durant un avant.
Les terroirs originels de la clairette sont gallo-grecs. La zone de la clairette couvre la zone d'influence grecque en Gaule méditerranéenne. La clairette est made in Gaule et gallo-grec. Alors, je n'ai pas dit que c'était un cépage grec. Il y a des experts qui ont essayé. Ils ont eu des...
Problèmes.
Est-ce que c'est notamment un cépage... avec l'empélologue José Vouillamoz.
Ah oui, est-ce que c'est un cépage bien gaulé, alors?
Il est assez productif.
Allez, vivons l'apéro, bon. Là.
Alors, on trouve la clairette près des comptoirs grecs, donc j'y reviens, à des cités rattachées à Massilia. D'abord donc près d'Agde, autour d'Adissan. On trouve la clairette près du comptoir grec de Rodanousia, ça ne vous dit rien, c'est dans le Gard, ça vous dira plus si je vous dis que c'est la clairette de Bellegarde.
Ah, bien sûr.
Une AOC confidentielle. On trouve la clairette Verdi dans la vallée de la Drôme, il y avait des comptoirs grecs tout au long de la vallée du Rhône. Aujourd'hui, seule l'appellation clairette de Die brute est issue à 100% du cépage clairette. On trouve la clairette près de Massalia, évidemment, hein, sur les sols squelettiques de l'appellation Palette, dans l'appellation Cassis. Et l'influence grecque en Gaule, aujourd'hui, on l'a un petit peu ignorée, elle revient en force. Il y a une exposition qui a lieu à côté de Montpellier en ce moment qui s'appelle l'Aventure phocéenne, justement. Et cet intérêt pour la culture grecque a été un petit peu évacué au profit de l'intérêt pour la culture romaine. Or, c'est très important, l'historien Justin, que vous lisez régulièrement au IIIe siècle, rappelle que sous l'influence des phocéens, les Gaulois apprirent patati patata plein de choses à cultiver la terre et à entourer les villes de remparts. Ils s'habituèrent à tailler la vigne et à planter l'olivier. Tailler la vigne, mais aussi greffer. Ainsi, le mot « hanté », greffé, que l'on trouve dans l'est de la France, nous vient directement des colonies grecques de Provence et du grec « emphutos ». Le mot « greffé », c'est du latin, le mot « hanté », c'est du
grec.
Bien. Ça met un petit peu de temps,
influence
Hélène, non
aussi, influence aussi oui. Grecque sur la façon de consommer le vin. On a retrouvé dans le Languedoc des râpes à fromage. Indispensable.
Les
pour
rappeurs
boire.
Déjà,
quel est le rapport pour boire du vin, choupeau. Non
oui. Bah oui. Ah bah,
vous ne vous souvenez pas du chant 11 de l'Iliade?
Non.
La jeune femme, semblable aux déesses, prépara une boisson de vin de Pramnios et sur ce vin, elle râpa avec de l'airain du fromage de chèvre qu'elle aspergea de blanche farine et après ses préparatifs, elle invita les deux rois à boire, etc.
C'est
etc.
comme ça que sonnaient les tapas.
Cette boisson grecque, elle est célèbre dans toute la Méditerranée. Elle se nomme le Cicéon. Et vous avez tous encore dans les oreilles l'avertissement du philosophe présocratique Héraclite qui disait... le Cicéon aussi se dissocie s'il n'est pas remué.
Ça, c'est dur à dire, c'est bien ça.
131.
Il faut le dire à Jean, ça.
C'était un peu
dans son extension.
C'était un peu le soupe à l'oignon des Grecs. Hein.
Attendez, dans son extension ultérieure, la clairette est restée du sud, évidemment. Elle connaît une expansion certaine. Et au 19e siècle, la clairette, elle devient un vin de base du vermouth. Comme l'Uni Blanc, c'est le vin du cognac, le Bacou Blanc, celui d'Armagnac, il n'y a rien de déshonorant. Et le vermouth, dont on dit qu'il a été inventé par le médecin grec Hippocrate, connaît un succès mondial durant un siècle et demi.
Grâce aux Italiens, il faut le dire.
Aussi.
Oui.
Il a surtout permis d'inventer le créole crème. Qu'est-ce que c'est que le créole crème?
Il y a beaucoup de noms bizarres là aujourd'hui. Hein.
C'est le cocktail qui est à l'origine de la bagarre entre Brett Sinclair et Danny Wilde.
Ah bien sûr. Oh,
dans le premier épisode de la série
Amicalement vôtre.
Avec ce commentaire macho de Brett Sinclair. Attention les jeunes femmes.
C'est fini là. Ça, c'était à l'avant.
Voilà, des années 70 quand même. Le meilleur ami de l'homme après la femme et le chien est le créole crème.
Après la femme,
le vermouth,
oui,
on a de la chance de s'en tirer bien.
Ça sent un peu les tentes en flingueur.
Le vermouth reconnaît aujourd'hui un regain de faveur grâce au cocktail. La clarette fait donc partie de l'avenir de la mixologie. Aujourd'hui, à nouveau, ce cépage bien taillé, bien conduit, s'avère formidable, apte à toutes les vinifications. Mais ce qui trahit en conclusion le grand cépage, c'est sa propension à attirer de grands vignerons et à faire de grands vins. On dénonce le Château Simone, le Vieux Donjon, le Château
Ragasse,
le Vieux Télégraphe, Éric Pfefferling, Catherine Roch, la Croix Chaptal. Et une dernière preuve, la toute dernière, la toute prochaine AOC Gigondas Blanc comptera 70% de clairette.
Merci les Grecs. Merci les Grecs, bien sûr, Derieux. Et merci également à Hélène Pio, Philippe Forbach et David Cobold. Angéline et Charlotte, bravo pour l'émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. On se retrouve sur le site sudradio.fr ou notre page Facebook. Rendez-vous samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission. Allez, restez à l'écoute de Sud Radio. On déjeune et on respecte toujours la plus grande des modérations.
Invino, avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.